Après cette rencontre, Suzanne, c'était le moment alors où on attendait que vous fassiez le travail pour lequel vous avez été appelée, c'est-à-dire observatrice du processus même de votation et d'élection. Mmh. Alors, comment ça s'est passé? Parce que nous, on a eu des bribes d'informations ici. On sait qu'apparemment, en tout cas, il y a eu des graves fraudes. Alors, toi, où tu étais, comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as entendu dire et comment on vous a écouté en tant qu'observatrice et observateur?
Donc, peut-être pour bien comprendre cette journée des élections, donc du 20 octobre, il faut peut-être la resituer dans un contexte plus large. Donc, le Nicaragua est un petit pays qui n'a jamais eu d'état civil proprement dit. Donc, la première partie du processus qui a duré plusieurs années a été de tenter de doter de papier d'identité toute une population qui, en fait, n'avait pas l'habitude de déclarer vraiment les naissances ou les décès. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, c'était impossible de donner des papiers vraiment légaux à presque une personne sur deux, de toutes les personnes qui les ont sollicités. Donc, il y avait ce grand problème des listes électorales et les papiers des gens. Ils ont dû faire des papiers provisoires. Et disons qu'il y avait déjà là toute une zone d'incertitude par rapport aux listes électorales, des personnes qui auraient voulu voter n'avaient pas reçu leurs papiers, elles étaient sur la mauvaise liste. Enfin bon, il faut se situer donc dans ce contexte en fait qui est très différent donc de la Suisse.
Mais officiellement, tout habitant du Nicaragua a le droit de vote.
Officiellement, tout habitant du Nicaragua à partir de l'âge de 16 ans a le droit de vote.
16 ans.
Ouais. Mais il y a ce problème donc de l'établissement des pièces d'identité et du registre électoral qui n'était pas du tout au point en fait. Il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas pu avoir les papiers nécessaires. Et puis il y avait aussi dans certaines zones rurales des bandes armées liées notoirement au Parti libéral qui a gagné les élections, qui ont exercé des mesures d'intimidation, qui ont aussi empêché la réalisation de tout ce travail d'identification, de cédulation de la population. Et qui, entre autres, aussi cherchaient à dissuader les gens de voter, ou en tout cas à les obliger à voter pour leur parti. Donc il y avait tout un contexte d'incertitude. Cependant, il faut dire qu'en 1990, les élections avaient été organisées par les sandinistes et qu'elles s'étaient déroulées extrêmement bien. Il n'y avait eu aucune plainte d'aucun parti par rapport à de la fraude. Je crois qu'effectivement, ça a été des élections entièrement nettes et bien organisées.
Alors que le problème se posait déjà, j'imagine, des listes électorales et tout ça.
Tout à fait. Mais disons, le processus électoral lui-même s'étant extrêmement bien déroulé, je crois que cette fois-ci, personne n'était vraiment préparé à ce qui s'est produit. Parce que quand je repense à la préparation que nous avons reçue en tant qu'observatrice ou observateur, nous avons eu plusieurs séances d'information par des membres du Conseil suprême électoral, qui est donc l'institution chargée d'organiser les élections au Nicaragua. On nous a expliqué qu'il s'agissait avant tout de vérifier le bon déroulement de la journée des élections, et puis éventuellement d'assister au comptage des bulletins, à l'ouverture des urnes. Mais on nous a expliqué que notre rôle était avant tout préventif, qu'il s'agissait d'éviter qu'il y ait peut-être des troubles ou des violences dans les bureaux de vote. Et en fait, je crois que nous n'étions pas du tout préparés à la fraude qui s'est évidemment déroulée dans la nuit, après que tout le monde soit rentré chez soi, y compris les observateurs. Donc, ce qui s'est passé dans énormément de lieux, c'est que justement la journée du vote s'est relativement bien déroulée avec bon, des problèmes parce que dans certains endroits il n'y avait pas le matériel pour voter qui était donc extrêmement lourd parce qu'il y avait 6 bulletins de vote pour 6 objets différents, 6 urnes. Et chacun de ces bulletins de vote avait à peu près 60 cm de long parce qu'il y avait 23 parties. C'était donc très lourd au niveau infrastructure et logistique. Ils ont tout cela à plus ou moins bien fonctionné. Dans un nombre très important de bureaux de vote, il y en avait à peu près 9000 à l'échelle de tout le pays.
Et vous étiez répartis dans tous ces bulletins de vote?
Alors évidemment que non, nous n'étions pas répartis dans tous ces 9000 bureaux de vote. Bon, en ce qui concerne notre délégation, nous étions une quarantaine, nous nous sommes répartis dans 5 départements. Moi-même, j'étais sur la côte atlantique à Puerto Cabezas. avec un groupe de 5 femmes et nous avons visité en une journée environ 25 bureaux de vote à différents stades évidemment du déroulement des opérations. Et nous n'avons observé aucune grave irrégularité, disons, nous n'avons pas observé de désordre. Nous avons observé, au contraire, une très très grande discipline des gens, une très très grande assistance, des files énormes qui avaient commencé très tôt le matin. Et puis à l'intérieur des bureaux de vote, il y a donc un personnel important, il y a 5 membres du bureau de vote, plus des représentants des différents partis qui sont là pour contrôler, on les appelle les fiscales. Et donc, ça nous a beaucoup frappé que dans tous ces tout petits bureaux de vote ruraux ou semi-urbains que nous avons visités, il y avait au moins 15 personnes donc, pour recevoir les votants, qu'on leur donnait toutes les explications nécessaires, très souvent dans leur langue, qui là-bas était une langue indienne, le miskito, et que tout avait l'air de se dérouler extrêmement bien, qu'il y avait un grand nombre de femmes dans ces structures des bureaux de vote, soit comme... présidente des conseils de vote, soit dans les contrôleurs des partis.
Y compris donc des moyens aussi pour les gens qui sont illettrés, qui ne savent pas lire et écrire.
Donc ici, il y avait donc les bulletins de vote étaient faits de manière justement assez imagée, avec un symbole pour chaque parti, avec les photos des candidats pour la présidence, ce qui devait permettre aux personnes qui ne savaient pas lire de se débrouiller.
Ils sont encore 40%, tu dis, au Nicaragua aujourd'hui.
Alors, on dit qu'actuellement, au Nicaragua, il y a de nouveau 40% environ d'analphabétisme. Donc, il était de 60% avant le sandinisme. Il avait baissé énormément. Il était entre 10 et 20% et il est en train de remonter énormément. Ouais.
Donc, tout ce processus, apparemment, se passe bien quand vous êtes sur place.
Quand nous sommes sur place. Et nous-mêmes, à Puerto Cabezas, nous sommes allés nous coucher vers 10h du soir, après avoir assisté à l'ouverture des urnes dans un certain nombre de bureaux de vote. On a vu que les gens prenaient grand soin de compter les bulletins, qu'il y avait des sacs en plastique pour mettre les bulletins déjà comptés, que tout ce matériel devait être bien gardé. Et nous sommes allés nous coucher, la conscience tout à fait tranquille. Et le lendemain matin, nous avons repris l'avion pour la capitale, Managua. Je crois que les autres observateurs, car nous étions nombreux, ont fait plus ou moins la même chose. Et notamment ceux qui venaient de délégations officielles, qui avaient évidemment beaucoup plus de poids que nous, comme ceux de l'OEA, l'Organisation des États américains, ceux de la communauté européenne et ceux d'une délégation qui était... dirigé par Jimmy Carter. Et il se trouve que ces observateurs officiels, le lundi matin très tôt, ont sorti un communiqué en disant que ces élections s'étaient déroulées à merveille, que tout avait été absolument parfait. Alors que, évidemment, c'est vers le lundi dans la matinée qu'on commençait à sortir toutes les irrégularités qui s'étaient passées justement pendant la nuit du dimanche au lundi. Donc il s'est révélé que dans beaucoup de régions, heureusement pas dans celle où je me trouvais moi, j'ai la conscience un peu plus tranquille. Il y a eu de nombreuses irrégularités au moment de la transmission des données dans les différents centres qui récoltaient donc d'abord au niveau régional puis après au niveau national le nombre des voix pour les différents partis. Notamment bureau électoral devait rédiger un document qui était signé, donc, avec toutes les voix qu'ils avaient récoltées, et puis envoyer un télégramme à Managua pour accélérer un petit peu le processus. Et un grand nombre de ces télégrammes étaient entièrement faussés. Donc, les premières indications, les premières tendances ont donné un nombre de voix beaucoup supérieur aux candidats de l'Alliance libérale. Et d'après les sandinistes qui avaient tenu eux-mêmes un double comptage des voix, parce qu'ils étaient présents dans tous les différents bureaux de vote, donc il y avait énormément de voix des sandinistes qui avaient été tout simplement éliminées au niveau de ces télégrammes. Ensuite, tous les jours suivants sont sortis d'autres irrégularités, notamment dans la rédaction des actes, donc des documents signés, où dans beaucoup d'endroits, il sortait un numéro de voix, toujours pour le parti de l'Alliance libérale, qui était supérieur au nombre de votants inscrits dans le bureau de vote.
Et il y a c'est toujours quand on fait voter les morts, quoi, dans certaines régions. Hein.
Exactement. Et puis, il y a aussi eu, dans beaucoup d'endroits, on a retrouvé dans la rue ou dans des décharges publiques, carrément les bulletins avec des urnes qui étaient jetées et les bulletins avec lesquels les gens avaient voté. ce qui évidemment empêchait tout contrôle postérieur de qu'est-ce qui s'était vraiment passé dans tel ou tel bulletin de vote. Dans certaines régions, des observateurs indépendants ont pu constater de leurs propres yeux ces irrégularités, notamment dans la région de Matagalpa et à Managua, où ils ont pu voir que, notamment, le transfert des urnes avec les bulletins se faisait sans le contrôle des fiscales des partis. Les gens de l'Alliance libérale leur empêchaient l'accès aux camions qui transportaient ces urnes. Ils leur empêchaient l'accès au bureau de poste où les télégrammes étaient rédigés, alors qu'il était dit clairement, donc dans le cahier des charges des fiscales, qu'ils avaient le droit d'assister à toutes ces opérations. Et il y a même eu, dans certains cas, complicité avec certains employés des bureaux de poste qui aidaient à falsifier les télégrammes, au point qu'il y a eu aussi un communiqué du syndicat des employés de la poste, justement, qui protestait du fait qu'on les avait obligés aussi, certains, à transmettre des données dont eux-mêmes savaient très bien qu'elles avaient été falsifiées sous leurs yeux ou qu'elles étaient fausses. Donc tout ceci a créé une atmosphère qui était extrêmement tendue. Ceci, c'était le lundi et le mardi, parce que beaucoup de partis, donc pas seulement les sandinistes, ont commencé à réclamer qu'on recompte toutes les voix. Parce que, il y avait vraiment trop de preuves qu'il y avait des irrégularités dans la manière dont dans le comptage des voix avait été fait.
Et comment ont réagi alors les observateurs et observatrices à ce moment-là? Parce que,
Alors évidemment, les grands observateurs internationaux, ils avaient déjà fait leur communiqué. J'ai vu que, par exemple, dans le courrier du mardi 22... Vous avez un communiqué de l'agence télégraphique suisse qui dit, voilà, le candidat M. Alemán du Parti libéral a été élu, et les observateurs de l'OEA ont dit que ces élections avaient été entièrement libres et transparentes. En même temps, à Managua, se déroulait tout ce débat pour faire pression sur le Conseil suprême électoral pour, en fait, qu'il effectue ce recomptage des voix. Alors à ce moment-là, les délégations d'observateurs indépendants, nous avons fait des communiqués, il y en a eu de divers types. Donc il y a eu notre délégation des femmes qui a fait un communiqué où on faisait un petit rapport sur ce que nous avions observé, toutes les petites irrégularités que nous avions effectivement vues. Certaines qui étaient restées à Managua avaient pu constater aussi des choses qui s'étaient passées pendant la nuit avec des urnes jetées, etc. Et où on disait qu'on appuyait les demandes des partis et des mouvements, donc d'effectuer un contrôle sérieux des élections. Et il y a eu donc une coordination des observateurs indépendants espagnols, français et suisses. Il y avait une importante délégation d'observateurs suisses qui venaient des milieux de la solidarité, qui allaient dans le même sens, donc qui dénonçaient les irrégularités qu'ils avaient constatées à leurs propres yeux et qui disaient que ça leur donnait suffisamment d'éléments justement pour appuyer la demande de la dizaine de partis qui demandaient ce recomptage des voix. Et donc, vers le mercredi, effectivement, le Conseil suprême électoral a admis qu'il y avait eu effectivement des irrégularités et a commencé de recompter toutes les voix. Alors la situation actuelle n'est pas encore dénouée. Donc d'abord, ils ont parlé d'une semaine pour recompter toutes les voix. Maintenant, j'ai eu des nouvelles. Ils parlent de tout le mois de novembre. Apparemment, la tâche se révèle beaucoup plus compliquée parce que je pense que dans beaucoup de cas, il faudra remonter peut-être jusqu'au bulletin de vote dans la mesure où ils existent encore.
Puisque une des dénonciations, c'était qu'on avait jeté des urnes.
Tout à fait. Et puis, il semblerait donc que dans la ville de Managua, il y a tellement à peu près dans 200 bureaux de vote sur la quantité qu'il y en avait à Managua, je ne sais pas, ça ne doit pas être beaucoup plus que 350, on ne retrouve pas de pièces qui puissent faire foi donc pour valider vraiment un chiffre. Donc maintenant, la demande se concentre sur refaire les élections à Managua. Évidemment, l'enjeu de Managua est très important parce que chaque fois, l'alcaldi à la mairie de Managua est évidemment un enjeu politique important parce que c'est là que vit à peu près la moitié de la population du Nicaragua. Et le président élu actuellement, donc M. Alemán, a été maire de Managua dans les 6 dernières années. Et il a basé toute sa campagne électorale sur le fait qu'il avait été maire de Managua, qu'il avait réalisé quelques merveilleuses fontaines et autre chose. Donc, je ne sais pas quel va être le dénouement. Est-ce que le Conseil suprême électoral va accepter de refaire les élections à Managua? Ça serait admettre qu'il y a vraiment eu fraude, alors qu'on parle maintenant d'irrégularité. Le terme de fraude n'a pas été reconnu officiellement.
Et entre-temps, par exemple, le communiqué officiel de l'OEA, c'est ça, n'a pas été retiré, enfin, je dirais...
Il n'y a pas eu de démenti, que je sache, des observateurs officiels. Bon, il faut peut-être aussi le dire, parce que je crois que j'ai oublié de le dire, que les deux partis principaux, donc le Front sandiniste et l'Alliance libérale, étaient très proches au niveau du pourcentage des votes. Donc, dans les sondages, dans les dernières semaines, on pensait que les deux seraient entre 40 et 45%. Donc, le partage entre les deux serait extrêmement juste. Et puis, le jour des élections, il y avait un écart quand même de 10 points. 38% pour les sandinistes et 48% pour l'Alliance libérale. Et les sandinistes, je crois, ont admis le fait qu'ils n'avaient pas gagné ces élections, parce que cet écart est quand même important de 10 points. Mais ils aimeraient connaître le chiffre juste. Ils ne trouvent qu'il n'y a absolument aucune raison, disons, d'admettre qu'on leur a enlevé toute une série de votes. Donc ils disent, on admet notre défaite, mais on aimerait savoir si c'est vraiment 38% des voix qu'on a eues, ou si ce n'est pas plutôt 42 ou 43, ce qui évidemment baisse aussi le nombre de votes de l'Alliance libérale.
El colibrí voló sin ver atrás hacia el jardín de flor del arco iris, no era la que buscaba, ni la de más noble olor, ni la de increíble olor. El colibrí lloró adorada flor, pero habitaba dentro de su corazoncito y no la podía ver, no, y no la podía ver, no, 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 la del néctar del
C'est un couple qui chante, vous avez surtout entendu la voix féminine, je te laisse les présenter. Suzanne, je ne suis pas sûre de dire le nom juste.
C'est un groupe qui s'appelle Guarda Barranco, ce sont deux Nicaraguayens, c'est un couple voilà, qui chante des gentilles chansons, j'en sais pas plus que ça.
Jour d'amour, c'est écrit sur la cassette. Alors évidemment, quand je t'entends en parler, Suzanne, de cette expérience que tu viens de vivre au Nicaragua, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement entre une autre expérience auquel tu as participé et dont tu étais venue nous parler dans Remue Ménage. C'était lorsque tu avais aussi été conviée comme observatrice aux élections qui s'étaient passées l'année passée au Guatemala. Or, bon, je crois qu'il y avait moins de fraudes et d'irrégularités évidentes comme ce que tu viens de nous raconter maintenant. Mais il n'empêche que je me pose quand même la question, est-ce que toi, avec ces deux expériences successives, tu t'interroges pas sérieusement sur le rôle des observateurs et observatrices? Parce que là, visiblement, vous étiez très impuissants.
Nous étions très impuissants et je pense que nous étions très mal préparés aussi. Donc là, je pense qu'on peut s'adresser à une autocritique collective. Je pense que nous avons été, en tout cas dans notre délégation, assez naïves. Et nous aurions dû penser qu'il pouvait se passer tout à fait d'autres choses et être beaucoup plus promptes à réagir au niveau des communiqués, au niveau de la communication avec les autres délégations d'observateurs.
Mais concrètement, ça aurait voulu dire quoi, ça, Suzanne? Ça veut dire que vous auriez dû rester là, suivre la rédaction de ces fameux télégrammes, etc., être pas dans toutes ces étapes?
Disons, être plus attentive à tout ça, mais je pense que nous aurions rien pu empêcher, parce que notre statut d'observateur ne nous permettait pas d'intervenir, il nous permettait simplement de faire des rapports à des autorités supérieures. Mais disons, peut-être que nous aurions pu être des témoins utiles, avec peut-être plus de poids. Mais je pense qu'ici aussi, il y avait un manque de préparation aussi des fiscales, des gens, des partis qui devaient contrôler. Je pense que, bon, dans certaines régions, il y a eu des fiscaux bien préparés, justement, qui ont permis de dénoncer toute une série d'anomalies. Mais je pense qu'à ce niveau-là aussi, il y avait un certain manque de préparation. Mais personnellement, je pense que le rôle des observateurs indépendants qui venons plus en solidarité, en fait, avec une partie du mouvement social, disons, au Guatemala, nous étions allés en solidarité avec un nouveau, tout jeune parti qui s'était formé, aussi pour observer la campagne électorale et pour dénoncer les nombreuses intimidations qui avaient lieu pendant la campagne électorale. C'était plutôt ça le problème principal au Guatemala, que la fraude proprement dite. Au Nicaragua, nous étions venus, beaucoup de délégués sont venus en fait plus pour soutenir le Front sandiniste et dans notre cas, c'était aussi pour soutenir la participation politique des femmes. Je pense que là, nous avons été utilisés, en fait, la fonction d'observateur a été utilisée justement par le fait que les observateurs de l'OEA, en fait, surtout eux, ont vraiment exercé une pression incroyable sur l'opinion internationale en sortant tout de suite un communiqué. Et que nous-mêmes, nous avons été naïfs par rapport à cette situation. Et moi-même, j'hésiterais beaucoup à reparticiper, disons, à un processus de ce type-là. Parce que je pense qu'on se fait utiliser dans des fins qui sont exactement le contraire de l'objectif que nous avions au départ.
Mais utilisé par qui, en l'occurrence, ici?
Alors ici, bon, ça c'est des rumeurs, mais disons, il y a de sérieuses indications qu'il y avait des pressions politiques fortes sur les délégations officielles pour, en tout cas, ne pas reconnaître qu'il y avait fraude et pour avaliser le plus vite possible la victoire du candidat libéral. Une fois qu'elle avait été proclamée à l'échelle de la planète, enfin dans la mesure où ça intéresse la planète, et en plus proclamée comme des élections libres, toute personne qui venait après pour dire « écoutez, c'est pas exactement ça », on les a considérés comme des mauvais perdants. Les sandinistes sont apparus, en tout cas dans beaucoup d'articles. Moi, j'ai pu voir dans El País, ça apparaît un tout petit peu dans le courrier aussi de cette façon, comme voilà, des gens qui n'acceptent pas leur défaite. Parce qu'en fait, l'espace médiatique avait déjà été occupé par ces gens de l'OEA, qui représentent avant tout le gouvernement américain. Disons, c'est une délégation qui est entièrement dominée par le gouvernement américain. Donc, on peut aussi se douter que la victoire des sandinistes n'était pas exactement au goût du gouvernement américain. Alors bon, sans faire de l'anti-américanisme primaire, il ne faut pas non plus être complètement naïf. Même si je pense que les sandinistes n'ont effectivement pas gagné ces élections, ou en tout cas que ce sera très difficile de le prouver. De toute façon, le fait d'avoir au pouvoir des gens capables d'organiser des fraudes massives à partir en fait des petites gens qui sont placés par le parti dans une multitude de petits bureaux de vote, et donc en leur graissant la patte, qu'ils agissent d'une certaine façon, ça n'inspire pas confiance, disons, par rapport aux structures du futur gouvernement.
Mais est-ce qu'il y aurait un moyen pour organiser un contrôle réel d'élection? Parce que j'ai aussi souvent l'impression, quand on lit, alors cette fois-ci sans avoir aucun rapport direct comme nous avons la chance d'avoir grâce à toi par rapport aux élections de Nicaragua, mais quand on lit justement dans les journaux les rapports d'observateurs par rapport à certaines élections, c'est tellement rare que les observateurs puissent affirmer qu'il y a eu fraude et obtenir un changement, comme si justement tout le temps tout se passait bien. Alors si on fait venir des observateurs, c'est qu'il y a quand même le risque que quelque chose se passe mal, malgré tout. Et on a l'impression que ça ne sert jamais à rien. Alors, quelles seraient, à ton avis, les réelles conditions d'un bon travail d'observateur? Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que quand tu dis on n'était pas préparé, alors comment t'imagines ça? Ou c'est de toute manière impossible au vu des rapports de force que tu viens d'écrire?
Oui, je pense que c'est un petit peu une mission impossible, dans la mesure où il y a effectivement une volonté de fraude qui se dégage massivement. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça a été quand même fait maladroitement, parce que tous ces écarts entre les télégrammes et puis les documents signés, ils devaient bien ressortir un jour ou l'autre. Ce qui fait foi, ce qui est légal, c'est pas les télégrammes, c'est les documents qui ont été signés donc, dans chaque bureau de vote. Mais il semblerait que du temps de Somoza, par exemple, la fraude, elle se passait beaucoup plus simplement, c'est-à-dire qu'on séquestrait carrément les urnes ou qu'on les remplissait à l'avance. Donc il n'y avait peut-être rien de visible, c'était organisé de façon beaucoup plus centrale et beaucoup plus efficace. Bon, mais à cette époque-là, on ne parlait pas non plus d'observateurs. Donc,
C'est l'arrogance des dictateurs, de toute
c'était
façon.
C'était l'arrogance des dictateurs, voilà. Alors là, moi-même, je suis très perplexe par rapport au rôle des observateurs. J'ai pu parler avec un observateur de la communauté européenne qui était quelqu'un, je pense, d'honnête et qui avait aussi eu ce sentiment de s'être fait doubler justement par sa propre organisation ou par les observateurs de l'OEA qui disaient « nous avons été beaucoup trop rapides à sortir un communiqué qui ne niait pas du tout qu'il y avait eu des irrégularités, même si lui-même n'en avait pas été le témoin dans l'endroit où il était observateur. Et moi, je pense qu'il faut se poser de sérieuses questions sur le rôle des observateurs en général. Et disons, en tant que personne qui a un lien solidaire avec un pays, je pense que ça vaut la peine aussi de se demander si ça vaut la peine de se lancer dans ce genre de mission. Moi-même, je n'ai pas encore fait le tour de la question.
Si la cumbia no tiene corazón, ni